Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonsoir, vous êtes sur Aligre FM. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Fréquence Droit, l'émission de la section des 10e et 11e arrondissements de la Ligue des droits de l'homme. Au micro ce soir, Bruno Guironet et Claude Cyril. Bonsoir Bruno. Ce soir, c'est un dossier important, celui du logement, que nous allons aborder. Et je crois qu'il faut d'abord que nous en tracions les contours, Bruno.
Eh bien, selon le collectif des morts de la rue, ce sont 2 personnes vivant dans la rue ou en hébergement qui meurent chaque jour dans notre pays. Comment accepter cela ? Oxfam et la Fondation Abbé Pierre estiment à 15 millions les personnes touchées par la crise du logement en France. La Cour des comptes, quant à elle, dénombrait en 2020 300 000 personnes sans logis. Il existe aujourd'hui en France une crise plus générale du logement dont ont parlé les médias. Suite à l'inflation, une paralysie du marché locatif et des ventes immobilières touchent la classe moyenne, en particulier les jeunes ménages qui cherchent à se loger ou à mieux se loger. Mais on entend très peu parler de tous ces sans-logis qui restent invisibilisés. SDF, exilés, mineurs isolés, de toutes ces familles expulsées et hébergées dans des conditions indignes en hôtel social, quand elles ne sont pas tout simplement victimes des marchands de sommeil. On parle si peu aussi des personnes vivant à l'année en caravane ou des étudiants pauvres qui n'arrivent plus à se loger suite au manque criant de logements sociaux. De son côté, l'État, en ces temps de Jeux Olympiques, cherche en catimini à débarrasser les rues de Paris des sans-logis par des mesures d'éloignement systématiques, comme il l'a fait récemment en direction d'Orléans. Il existe pourtant de nombreux textes constitutionnels et internationaux garantissant le droit au logement. Depuis la loi Besson de 1996 à la fameuse loi Dalloz de 2007 qui devrait garantir un droit opposable au logement pour tous citoyens vis-à-vis de l'État. Depuis la fameuse intervention de l'abbé Pierre dans l'hiver 54, beaucoup d'acteurs associatifs n'ont cessé de se mobiliser sans relâche pour faire respecter ces droits et les rendre effectifs. Et ils sont encore aujourd'hui en première ligne pour défendre ce droit au logement pour tous.
Et à ce propos, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir dans notre studio 3 acteurs associatifs. Michel Platzer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du secteur logement à ATD Carmont, une association fondée en 1957 d'envergure internationale et qui lutte sur le terrain contre la pauvreté. Jean-Baptiste Hérault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'actuel président et fondateur du DAL en 1990. Le DAL, le droit au logement.
Un des fondateurs.
L'un des fondateurs, il faut le préciser. Et puis François Mekel, bonjour.
Bonjour.
Vous menez depuis de longues années au sein de la Société Nouvelle du Logement une action permanente d'accompagnement des sans-logis en région parisienne. Bienvenue à tous, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est parti.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
D'abord, Bruno, il faut parler de chiffres.
Quand on cherche des chiffres du côté de l'INSEE, on est, à notre connaissance, contraint de s'en tenir à la dernière enquête qui remonte à 2012 et qui donnait 143 000 sans-abri dans notre pays, un nombre qui est estimé avoir doublé en 10 ans, donc on devrait être à peu près aux alentours de 300 000. Michel Platzer, depuis un certain temps, est-ce que les expulsions se multiplient ?
Eh bien, oui, merci de me donner la parole. Donc, une petite précision pour commencer. Le mouvement ATD Carmonde n'a pas pour but de lutter contre la misère. Le mouvement ATD Carmonde a pour objectif l'éradication de la misère. Donc, c'est encore plus ambitieux que vous ne l'annonciez, même si effectivement c'est du moyen ou du long terme. Et pour ce faire, le mouvement ATD Carmonde s'appuie sur 2 piliers essentiels. Le premier, c'est la participation effective des personnes concernées. C'est-à-dire qu'on pense qu'on ne pourra pas vaincre la misère sans associer directement au projet les personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Et le deuxième, et ça concerne directement notre rencontre de ce soir, c'est l'accès aux droits. C'est-à-dire que le deuxième pilier du mouvement ATD Quart Monde, c'est l'accès de tous aux droits de tous. Et donc, par rapport au logement, et pour répondre à votre question, effectivement, on a une poussée considérable des expulsions. Quelques chiffres, on ne va pas s'inonder de chiffres, mais quand même. En 1983, nous avons eu 3000 expulsions. En 2022, une petite quarantaine d'années après, 17 500 ménages expulsés, 38 000 personnes, fois 6 en 40 ans. En 2023, 21 500 ménages expulsés, 23% de plus qu'en 2022. Et avec la trêve hivernale, la fin de la trêve hivernale au 31 mars 2024, on craint le pire, surtout avec la loi Kasbarian-Berger qui va accélérer les procédures. Et ceux-ci sont les expulsions comptabilisées avec présence, je pense qu'on en parlera, de la force publique. Mais il faut ajouter à tout cela toutes les familles qui, par angoisse, par honte, par toutes les raisons possibles, vont quitter leur logement avant l'intervention de la force publique. Et le livre dont on parlera tout à l'heure estime qu'il faut ajouter environ 50%. Donc on ne serait pas en 2023 à 21 500, mais plutôt autour de 30 000 familles expulsées. Et encore une fois, il n'y a aucun indicateur qui nous permette de penser que ce chiffre va diminuer.
Jean-Baptiste Hérault, vous êtes un militant de longue date qui, au sein du DAL, se bat pour le droit au logement. Vous pourriez raconter à nos auditeurs comment se passe concrètement une expulsion ?
Une expulsion manu militari, parce qu'il y a plusieurs... en général, on a à peu près 130 000 à 140 000 jugements d'expulsion. Et en bout de course, on a malheureusement 21 500 expulsions forcées avec intervention de la force publique. Donc d'abord, la plupart des gens partent au fil de la procédure, il faut le savoir. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la funeste loi Kasbarian-Berger du 27 juillet 2023 qui sanctionne les locataires à une amende pénale hein, s'ils se maintiennent dans leur logement après le jugement d'expulsion et l'échéance des délais qui sont octroyés par le juge, qui ont été réduits en plus. Donc là, on va avoir évidemment de plus en plus d'auto-expulsions. Les gens vont se mettre dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et donc, ils vont aller dans la rue parce que, par la peur de se retrouver avec une amende qui peut se monter jusqu'à 7500 euros. Donc, c'est gigantesque pour des gens déjà qui ont du mal à payer leur loyer. Et donc, l'expulsion forcée, bah, c'est quoi ? C'est au petit matin, toc, 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 bonjour, la police, ouvrez-nous, l'huissier. Si le locataire ouvre ou l'occupant ouvre pas la porte, le serrurier intervient, ouvre la porte. Sortez immédiatement, parce qu'ils vont très vite, parce qu'ils ont peur que ça déraille. Ils ont peur que les gens, ils jettent par la fenêtre, ou quoi. C'est déjà arrivé, d'ailleurs. Enfin, il y a déjà eu des suicides, quelques heures avant une expulsion, quelques jours avant, ou pendant une expulsion, on a même eu un locataire qui a été tué, il y a deux ans, qui a été tué par la police, hein, parce qu'il avait fait mine un peu de se défendre, ou quoi, puis surtout, il était repéré comme étant... un délinquant, entre guillemets.
Préciser que les familles ne sont pas prévenues. C'est-à-dire que le locataire ne sait pas.
Oui, c'est exact.
Ne connaît pas le jour où la police va arriver.
Non, c'est exact.
Et c'est l'effet de surprise. Quoi. Donc c'est complètement traumatisant d'imaginer que n'importe quel matin, eh bien, on peut avoir toc-toc et les...
C'est vraiment l'épée de Damoclès. Voilà. Et donc il y a une angoisse terrible qui s'installe au niveau des gens. Et c'est normal, quoi. Ils ont très peur. Alors nous, on organise des piquets anti-expulsion. Donc, c'est-à-dire que...
J'allais vous poser la question. Il n'y a pas parfois un entourage qui est...
Voilà, donc il faut organiser la solidarité autour. Alors, s'opposer, difficile. Bon, on l'a déjà fait, mais on se fait jeter un peu comme des...
Oui.
Comme des poubelles.
Vous connaissez les méthodes de la police.
Par la police musclée. Mais ça, c'était il y a quelques années. On pense qu'aujourd'hui, ils iraient même un peu au-delà. Donc, mais il n'empêche qu'on peut organiser la solidarité et peser politiquement. C'est-à-dire dans le quartier, les voisins, etc. Il faut alerter les voisins. Et le matin, on fait signer une pétition, ensuite on va à la mairie, on va à l'école, etc. Comme font d'ailleurs les collectifs de soutien aux familles sans-abri. Hein, et donc, c'est pareil, il y a une solidarité qui peut... L'école est un creuset de la solidarité. Donc,
et certains élus aussi, parfois. Certains élus.
D'accord.
Et certains élus, bien sûr, ça pèse après, parce qu'ils disent, là, ça commence à se savoir, etc. Ça n'a pas passé d'aperçu. Parce qu'évidemment, le jeu de l'histoire, c'est que tout ça reste le plus discret possible. Parce qu'historiquement, les Français n'ont jamais été très très favorables à l'expulsion locative. Comme tu le disais, il y en a eu 3305 en 83. Les années qui ont précédé, c'était moins de 2000, quoi. C'est-à-dire que l'expulsion locative était quelque chose d'un peu de proscrit. Mais aussi parce que les loyers étaient très bas. On avait un taux d'effort des locataires de 10% en 1973.
D'accord, on va revenir sur ces 10% loyers impayés, ou plutôt impayables.
Ouais.
Michel Platzer, quelles sont les conséquences pour une famille expulsée ? Quel est l'impact d'une expulsion dans sa vie quotidienne ? Qu'est-ce qui se passe ?
C'est très simple. Hein. L'accès au logement, c'est la base de l'accès à tous les droits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la famille est expulsée, alors évidemment, il existe des circulaires, des choses comme ça, etc., publics qui disent qu'on n'expulse pas une famille sans relogement, parce qu'effectivement, au pays du droit au logement, qu'est-ce que ça veut dire ? À partir du moment où il y a un droit opposable au logement, de mettre une famille à la rue. Donc théoriquement, les familles expulsées doivent bénéficier d'une solution de relogement. En pratique, ce n'est pas du tout le cas. Et les familles vont se retrouver à l'hôtel, en foyer, ou même carrément à la rue.
Ouais, au mieux, ouais, c'est ça. Ouais.
Et à partir de là, une fois que la famille est à la rue, qu'est-ce que ça veut dire que le droit à l'éducation ? Ben, les enfants ne peuvent plus bosser, ils peuvent plus, etc. Qu'est-ce que ça veut dire que le droit à la santé, l'hôtel, la rue, etc., c'est générateur de maladies, machin, etc. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'équilibre de la famille où effectivement la vie en couple ou en famille devient presque insupportable quand on est dans ces conditions-là ? Donc, en gros, la perte du logement, le logement c'est un peu la clé de voûte des droits. La perte du logement, ça implique un effondrement de la plupart des accès aux droits. Et donc c'est quelque chose de complètement essentiel. Et c'est ce qui veut dire que derrière l'accès au logement, chez ATD on se bat pour l'accès à tous les droits, derrière l'accès au logement, c'est effectivement la perte de l'accès aux droits généralisé pour l'ensemble de la famille, conséquences pour les enfants, sur la délinquance, etc. Enfin bon, et on ne calcule pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, les conséquences d'une perte de logement peuvent se juger sur 30 ou 40 ans derrière. Et ça, personne n'a jamais calculé ça. Parce que sinon, on se rendrait compte que le petit montant de loyer, puisque ce sont surtout des questions de non-paiement de loyer, comme on le verra, le petit montant de loyer comparé à l'impact social, sociétal, sur l'ensemble des dépenses sociales de la famille sur 40 ans, on est dans l'absurde le plus total.
D'accord. Alors, quand on parle de crise du logement et de non-accès au droit au logement, on parle des sans-logis, mais on évoque aussi le cas de personnes, entre guillemets, mal logées. Que peut-on entendre par cette expression ? Qui veut répondre ?
Je peux commencer, puis... Voilà. Donc, personne mal logée, ça pose la question de savoir ce qu'est un logement. Qu'est-ce que c'est qu'un logement ? Alors là, la question est multiple. Le logement neuf, en France, il est formidable, il est magnifique, il est confortable, il est exceptionnel. Il est défini par un grand bouquin qui s'appelle « Le Code de la construction et l'habitation ». Le logement neuf est parfait. Maintenant, sur les 38 millions de logements, on n'en fait que de 300 000 chaque année, donc 1%. Donc qu'est-ce qui se passe sur les 99% de logements qui ne sont pas neufs ? Et alors là, on passe dans un autre registre qui est celui du Code de la santé publique. Et peut-être, Jean-Baptiste, tu peux nous dire un mot sur la notion de logement insalubre, puisque quand on n'est pas dans le logement neuf, le logement, il est ou salubre ou insalubre. S'il est insalubre, ce n'est plus un logement. Et là, on a des évolutions récentes.
Jean-Baptiste Hérault.
Alors, il y a deux types de logements de mauvaise qualité. Il y a le logement insalubre qui est dangereux pour la santé des occupants et qui est réglementé depuis le 19e siècle. Ouais. Hein. Donc là, on est suite aux épidémies de choléra, etc. Bon, les médecins hygiénistes se sont rendus compte à l'époque qu'il y avait une relation entre les taudis et des épidémies qui pouvaient toucher la bourgeoisie, bien sûr. Donc, ça, c'est l'insalubrité. Et puis, donc ça, c'est sous contrôle de l'État, en règle générale. Hein, pour les communes aussi qui font un peu, mais en règle générale, c'est l'État qui maîtrise. Et sinon, il y a le logement décent, donc qui est issu d'une loi de 2000, qui est beaucoup plus récent, et qui oblige le bailleur à fournir un logement, on va dire, conforme aux normes actuelles. Faut pas qu'il y ait des taches d'humidité, faut qu'il y ait de l'eau chaude, un sanitaire minimum, etc. Un toilette, un WC dans chaque logement, séparé. Enfin bon, sauf dans les logements d'une pièce où le WC peut être à l'étage. Mais il doit quand même y avoir une salle d'eau et une cuisine. Voilà. Alors, ça, c'est le logement décent. Mais ça, celui-là, il relève des relations entre le locataire et le bailleur. Donc, c'est le juge. Il faut saisir le juge. Alors, évidemment, les locataires qui sont, surtout dans les zones tendues, qui sont dépendants, ils ont trouvé un logement. En général, ceux qui sont logés dans un logement indécent, ils ne sont pas très riches. Ils n'ont qu'une trouille, c'est de se retrouver à la rue. Donc, de se mettre en conflit avec leur bailleur. Donc, ils ne vont pas attaquer leur proprio. Sur le logement insalubre, là, on est dans une régression terrible.
Alors, quelles sont les causes de cette situation? Il y a quelques années, le sociologue Camille François a écrit un livre sur cette situation, « De gré et de force, comment l'État expulse les pauvres ». Les causes de cette situation, alors la question, je la pose à François Meckel. Je rappelle que vous êtes de la Société Nouvelle du Logement.
Alors, ce n'est pas la Société Nouvelle du Logement, c'est une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle pour le Logement. Voilà, je précise, on ne sait pas.
Précision utile.
Voilà, donc les causes de cette situation, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de logements pour les gens qui en ont besoin. C'est-à-dire que c'est un problème de l'offre, déjà, en particulier sur la question du logement social, et de l'offre par rapport à la demande. Il y a une adéquation qui ne se fait pas. Donc c'est aussi le fait qu'on construit de moins en moins de logements sociaux, on perd depuis 5 ans maintenant, depuis les années 2017-2018, on construisait environ 125 000 logements sociaux, on est rendu maintenant à 82 000 sur 2023. Donc l'offre s'affaiblit d'une façon très conséquente en permanence. Et puis il y a aussi le fait que nous, on a fait un travail très important avec d'autres associations, dont ATD, qui est ici présent avec Michel Platzer. On a fait un gros travail sur les attributions de logements sociaux aux ménages à faibles ressources. On a travaillé sur les ménages du premier quartile de revenus, voilà, c'est-à-dire des gens qui sont à 60% en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, on est du revenu médian plutôt. Voilà, et on s'aperçoit en fait que les logements qui seraient destinés à ces personnes-là ne leur sont pas attribués en grande partie. Ils sont plutôt attribués à des personnes qui ont des revenus supérieurs, c'est-à-dire à des gens du deuxième ou du troisième quartier. Là. Alors bon, il y a toute une...
C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend la file des demandeurs de logements sociaux, si on la coupe en quatre, les 25% les plus pauvres ne vont bénéficier que de 13% des attributions. C'est-à-dire deux fois moins que ce qui serait logique. On pourrait penser que le quart des plus pauvres bénéficie du quart des logements attribués. Ça serait quand même la base. Et aujourd'hui, c'est 13% dans la métropole du Grand Paris. Donc, on a un vrai sujet.
Ces anomalies, Michel Platzer, elles sont dues à quoi? À un manque de vigilance?
Eh bien, ces anomalies sont dues à des processus d'attribution des logements qui sont complexes, et ces anomalies sont dues aussi au fait que le prix actuel des loyers, des logements, même des logements sociaux, est de plus en plus en décalage par rapport aux capacités financières des familles, car la politique de l'État depuis plus de 30 ans est de diminuer les aides au logement. Comme l'État diminue les aides au logement et que les bailleurs sociaux ou privés demandent toujours le même montant de loyer, la différence, elle est payée par les occupants, par les locataires. Et c'est donc qui, eux, payent en réel de plus en plus, même si le loyer final perçu par le propriétaire est le même. C'est-à-dire que le reste à charge est plus important car les aides diminuent. Et ceci, ça a deux conséquences. Ça a comme conséquence les impayés. Donc les expulsions, et ça a comme conséquence que, d'un autre côté, dans les demandes d'accès au logement, les plus pauvres ne peuvent plus se payer le logement social. Les aides sont insuffisantes, et donc les plus pauvres sont en fait privés d'accès au logement social et restent dans l'hébergement, dans tout ça. Et pour des sujets, j'en dis juste un mot totalement absurde, c'est que l'hébergement, ça coûte très cher. Une place d'hébergement en Seine-Saint-Denis, c'est 10 000 euros par an. Une famille de 5 personnes, c'est 50 000 euros par an. Et on va refuser à cette famille un accès à un logement social parce qu'il lui manque 200 euros de revenus. C'est-à-dire que d'un côté, on a 2 500 euros et on dit non, il manque ces 2 500 euros, donc vous ne pouvez pas entrer dans le logement. Et à cause de ça, on va dépenser 50 000 euros. C'est une politique de gribouille absolue. Oui, cette question des loyers est vraiment une folie.
Oui, mais alors après, la question, c'est pourquoi les classes moyennes veulent aller en HLM ? Parce que le secteur privé est trop cher. Donc en réalité, la vraie question, c'est que les prix de l'immobilier, la spéculation immobilière, foncière et les loyers ont augmenté de manière considérable en France, surtout depuis la fin le début des années 2000, en fait. Hein, la hausse, elle est là, mais elle a commencé un peu avant. Et alors, il faut quand même rappeler que les locataires, en 1973, selon l'INSEE, consacraient 10% de leurs revenus en moyenne au loyer. Et 10%. Et aujourd'hui, pardon, on est à pas loin de 30%. On est à pas loin de 30% aujourd'hui.
Vous voulez intervenir.
Et ça, c'est une moyenne. Et quand les classes moyennes aujourd'hui cherchent un moyen de se loger, ou leurs enfants, etc., etc. Donc, il y a une demande de logement social énorme. On est à 2,6 millions de demandeurs de logements sociaux. En France, on n'en a jamais compté autant. Et on attribue entre 300 et 400 000 logements sociaux dans l'année. Et j'ajoute que la production de logements sociaux, qui est de 82 000 l'année dernière. Mais quand on retire les démolitions et les ventes de logements sociaux, on arrive à moins de 50 000.
Absolument.
Donc en fait, on est dans une crise énorme, énorme. Hein. Enfin, je veux dire, dans un pays aussi riche que le nôtre, on devrait pouvoir loger convenablement la population. Enfin, c'est insensé qu'on ait autant de sans-abri, autant de demandeurs, autant de mal logés, autant de personnes foutues à la rue chaque année.
Et on est carrément en pleine régression, parce que je vais abonder encore le chiffre de Jean-Baptiste. Selon M. Alfondéry, qui vient de décéder, qui était un grand homme de la politique sociale et un grand banquier, il a fait un très beau livre sur la politique du logement en 65. En 65, le taux d'effort des familles était de 5,5%. On est passé de 5,5% des revenus consacrés au logement à 40% aujourd'hui au moins. Je pose la question, est-ce que c'est un progrès ?
Oui, mais c'est la richesse qui est tirée de la spéculation et de la montée
Absolument.
Des prix.
Si ce qu'on comprend bien, vous venez de dire qu'il y a une crise dans la demande, il y a un nombre de plus en plus grand de demandeurs de logements sociaux, mais il y a une crise de l'offre aussi de la part de l'État. Qui veut répondre ?
On l'a vu, nous, de toute façon, pas plus tard que ce matin, il y avait un Conseil national de l'habitat avec la présentation de la loi, d'une loi du ministre... on va dire du délogement, nous on l'appelle le ministre du délogement, M. Kasbarian, et qui a présenté sa proposition de loi, qui a été rejetée par le Conseil national de l'habitat. Donc c'est plutôt sympathique, mais cette loi, elle dit quoi ? Elle dit on délègue aux maires les attributions de logements sociaux avec tous les risques de clientélisme municipal. Parce qu'on choisit ses populations, ses habitants, etc. etc. Ça dit aussi que les bailleurs sociaux vont pouvoir spéculer, c'est-à-dire travailler comme des promoteurs, faire le même métier que les promoteurs.
Comment on ne leur donne plus d'argent ? On leur dit maintenant, allez-y, spéculez comme tout le monde.
Que les maires, les maires défaillants qui ne respectent pas la loi SRU, c'est-à-dire la loi qui oblige à produire 25% de logements sociaux dans chaque commune, donc les maires délinquants en quelque sorte, hein, soit un peu exonéré de l'obligation de faire du logement social et fasse du logement pour les classes moyennes aisées, c'est-à-dire les 4 sup.
Ce qu'on appelle le logement intermédiaire.
Logement intermédiaire, les 4 sup. Bref, il y a une série comme ça d'horreurs dans sa loi qui sont terribles et qui traduisent à la fois le désengagement de l'État, le renforcement du clientélisme, un clientélisme électoral sur les classes moyennes aisées et un clientélisme aussi politique en direction, on va dire, des élus du Sénat et qui vont profiter de l'aubaine de pouvoir encore renforcer la gentrification et la sélection des populations.
Plus le fait de porter de l'accusation, d'abord avec la question des expulsions sur, il y a peut-être en France tous les ans 150 ou 200 mauvais payeurs qui effectivement escroquent des pauvres petits retraités qui ont mis leur argent dans le logement.
Qui vont aux Bahamas, c'est ça, payer leur loyer.
Il y en a peut-être une centaine par an. Et au nom de ça, on fait une loi qui va toucher des centaines de milliers de gens honnêtes. Pareil, vous avez pu remarquer qu'on mettait aussi le haro sur les riches en logement social. Bon, aujourd'hui, le supplément de loyer le supplément de loyer pour revenu excessif, il est payé par à peu près 80 000 locataires du logement social et il y a, comme dit Jean-Baptiste, 2 600 000 demandeurs. Même si demain matin, on foutait dehors, passez-moi l'expression, ces 80 000 entre guillemets riches, on résoudrait 2% de la question. Donc, on cherche en fait à condamner, à accuser, etc., pour, comme tu le dis très bien, faciliter la politique de désengagement complet de l'État, car le sujet, il est là. Le sujet, il est que l'État dit aujourd'hui « le logement, ce n'est plus mon problème ».
Intervention de Michel Plazer. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir quelle devrait être une véritable politique de logement social. On parle de financiarisation du logement social. De quoi s'agit-il? C'est une question connexe. La question, vous la pose, François Meckel. Une bonne politique de logement social, c'est quoi?
Une bonne politique de logement social, ça serait de prendre en compte, parce que par rapport à... Il y a un désengagement qui n'a pas été énoncé, enfin, c'est les désengagements économiques, surtout de l'État, par rapport... c'est-à-dire toutes les ponctions que l'État a fait depuis 5 ans maintenant, enfin depuis 2017, sur le logement social, qu'on considère que c'est plusieurs milliards par an qui sont ponctionnés à travers la réduction du loyer de solidarité, à travers des... donc, qui consiste à baisser les APL, en fait. Hein, c'est le système de rattrapage. Il y a effectivement cette financiarisation qui est demandée C'était déjà il y a quelques années déjà qu'on a demandé au secteur social de vendre les logements. Bon, de pouvoir. Alors il paraît que quand on vend un logement, on est susceptible d'en faire d'autres. Bon, mais donc de les mettre dans une logique effectivement libérale de marché, ce serait, je crois, d'adapter, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, il y a 2 600 000 demandeurs, mais ces 2 600 000 demandeurs, en même temps, il y a une paupérisation de ces demandeurs. Parce que c'est vrai que le logement social est universel. 70% des Français peuvent avoir, disons, voilà, un logement social. C'est un pourcentage énorme de la population. C'est, on pourrait dire, pratiquement la totalité de la grande totalité de la population, mais sur ces demandeurs, 70%, ce sont des gens qui veulent un logement social qui ont de faibles ressources et donc qui veulent un logement social ce qu'on appelle un PLAI. En fait, il n'y en a pas naturellement suffisamment. C'est-à-dire, on a 70% des demandeurs qui demandent des PLAI, on en construit 30%. Donc, il y a une offre qui ne correspond pas. Alors, évidemment, ce serait de pouvoir augmenter ce pourcentage, c'est tout le travail qu'on mène chacun dans nos associations, en tout cas, ou dans notre plaidoyer par rapport à la politique du logement, c'est d'essayer de faire en sorte... Alors à ça, on nous répond la mixité sociale. Alors bon, la mixité sociale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément être contre, la mixité sociale, mais à quel prix? Savoir quel équilibre on peut trouver par rapport à ça. Donc moi, gérer une politique du logement social qui retrouverait sa place, c'est une politique qui serait, au contraire de celle menée actuellement, qui aurait les ressources et les moyens de répondre à l'ensemble de ces demandes et en particulier de mettre les logements qui correspondent par rapport aux demandeurs en termes de typologie. Voilà, ce serait.
On pense qu'il faut agir sur le marché, en fait. Il faut réguler le marché. Le marché immobilier, le marché locatif et le foncier. Pour qu'ils redeviennent à un niveau accessible, hein, tout simplement. Enfin, il y a des pays qui font ça très bien. Ça, c'est une chose.
Vous pouvez donner un exemple, par exemple, des pays qui font très bien ou mieux qu'en France?
C'est les Allemands, par exemple. Bon, bien que là, ils assistent, ils ont une flambée actuelle, mais les Allemands ont régulé le marché immobilier de manière conséquente, hein. Bon, par un système de miroir des loyers, etc., etc. Bon, ce qui fait que les loyers à Berlin, par exemple, ils sont très bas, quoi, par rapport à ceux qu'on a à Paris, ils sont deux ou trois fois moins élevés. Donc, il y a possibilité de le faire, hein, y compris dans les pays dits capitalistes. C'est pas une impossibilité. La question, c'est la question de la rente. Donc il faut bloquer ça. C'est la rente, on gagne de l'argent sans rien faire, c'est ça la rente, hein, ou sans faire grand-chose, quoi. Bon, et la rente locative, ou la rente immobilière, la rente spéculative, avec les groupes financiers qui débarquent en plus, qui profitent de la situation. Voilà, là, Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encadrer les loyers dans le secteur privé à la baisse. 1. 2. Il faut réquisitionner les logements vacants. On n'a jamais eu autant de logements vacants dans notre pays. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Au moins, ceux qui appartiennent à des gros proprios, on les réquisitionne, comme on l'a fait dans les années 40, 50, 60 en France. Enfin, je n'ai rien d'anormal. La loi, elle est là. Il suffit de l'appliquer. Et puis, ensuite, on doit suspendre, évidemment. Alors, mettre en œuvre les droits des gens. Alors, il faut financer. Ouais, il faut financer la production de logements sociaux. C'est-à-dire, on dit, le logement privé, c'est bon, le logement en rapport, ça suffit. Hein. Maintenant, on fait du logement social, avec des loyers qui sont abordables aux catégories sociales, aux catégories modestes. Bon. Et puis, ensuite, on prend des mesures. On met en œuvre le droit à l'hébergement jusqu'au relogement. On respecte les lois qui ont été acquises, qui ont été votées et qui ont été obtenues par les combats des mal logés, des associations, ces 30 dernières années. La loi Dalo, le droit à l'hébergement jusqu'au relogement, les normes de logement décent, le droit au relogement pour les habitants de logements insalubres, etc. Enfin, je veux dire, il y a quand même un certain nombre de droits qui ont été acquis et qu'il faut mettre en œuvre. Mmh. Et ils sont dans la loi, on demande l'application de la loi. Donc maintenant, on sait bien que ce qu'on a en face de nous, c'est pas ça. Hein, avec Kasbarian. Kasbarian, lui, c'est un idéologue libéral.
Nous allons revenir
sur ça. La loi du marché, sur etc. Ça.
Vous parlez de loi du marché, Jean-Baptiste Ayrault, et vous venez de dire, oui, mais il va falloir financer tout cela. Toute cette politique a supposé qu'elle existe, à la volonté politique, gouvernementale. Il va falloir financer cette production urbaine de logements sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un risque de voir arriver sur ce marché des gestionnaires d'actifs, des grands fonds internationaux qui vont investir dans ce secteur-là.
Évidemment. Et ils sont déjà là. C'est-à-dire que les gestionnaires d'actifs, on commence déjà à investir, enfin déjà depuis un certain temps, dans l'immobilier. Enfin,
mais jusqu'à présent, c'était plus l'immobilier de bureau ou les plateformes logistiques.
C'est vrai, ils sont sur le logement.
Michel Platzer.
Sur le plan financier, je pense qu'il y a une donnée importante que les auditeurs doivent bien avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, le secteur du logement rapporte à l'État entre 80 et 90 milliards d'euros de taxes diverses. L'État consacre en dépenses au secteur du logement autour de 30 milliards d'euros. Ce qui veut dire que le secteur du logement est entre guillemets bénéficiaire de 60 milliards d'euros, c'est-à-dire le budget de la défense. En gros, le secteur du logement finance l'ensemble des dépenses de défense de la nation. Vous voyez ? Et au nom de ça, on dit que ça coûte trop cher, c'est trop important. L'APL, vous voyez, d'un côté, on a 60 milliards de recettes, et d'un autre côté, on chipote sur 500 millions, 1 milliard, 1 milliard et demi d'APL en mettant des gens à la rue. Ça, c'est totalement, totalement scandaleux. Voilà. Sinon, effectivement, sur les questions de la politique du logement, il faut bien faire la différence entre l'accès au logement, c'est-à-dire les aides, et puis la construction de logements, c'est-à-dire le développement. Et là, moi, je soutiens tout à fait ce que disait Jean-Baptiste. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans la ville ? Dans la ville, les investissements sont les investissements publics. Vous avez un terrain. Ce terrain est en banlieue, à 2 km de Paris. Tout d'un coup, à cause de centaines de millions d'investissements publics, arrive une station de métro. Votre terrain voit sa valeur multipliée par 10.
Ça change tout, oui.
Est-il logique que vous bénéficiez à 100% de cette augmentation de valeur de votre terrain qui a été permis par un investissement public ? Non. Donc, à l'évidence, la question foncière, elle est collective, elle n'est pas individuelle. Donc, la rentabilité, tous ces sujets doivent être examinés par rapport à une dynamique de développement urbain qui, elle, est portée par des investissements publics massifs. Je veux dire, le Grand Paris, le réseau du Grand Paris induit des mouvements de valeur de terrain absolument hallucinants. Et l'État ne toucherait rien, ou presque, de ce retour d'augmentation de valeur, et ça serait totalement capté par le privé. Il n'est pas logique que les augmentations de valeur soient captées par le privé alors qu'il s'agit d'investissements publics.
Michel Platzer, merci. On va continuer cette émission. Je précise que M. Kasbarian, dont nous parlions tout à l'heure, c'est le nouveau ministre du Logement, et on examinera peut-être tout à l'heure également un premier bilan de son action. Tout de suite, nous marquons une pause.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble,
après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi.
Vous êtes sur Aligre FM, vous écoutez Fréquence Droit, l'émission de la section des 10e et 11e arrondissements de la Ligue des Droits de l'Homme. Au micro, Bruno Guironet et Claude Cyril, et puis nos invités, Michel Platzer, de la TD Carmonde, Jean-Baptiste Hérault, l'un des fondateurs du DAL, et puis François Meckel, je le disais tout à l'heure, de la Société Nouvelle du Logement, mais je crois qu'il faut rectifier à nouveau.
Solidarité Nouvelle pour le Logement.
Exactement. Nous avons ouvert l'important dossier du logement. Il nous faut parler maintenant, Bruno Guironet, des mobilisations actuelles.
Oui, vous pourriez nous parler de quelques formes de lutte contre les expulsions et pour le relogement. Est-ce qu'il y a des exemples actuels qui sont particulièrement parlants ou...
La lutte contre les expulsions, en fait, on lutte contre les expulsions, on ne peut pas s'opposer.
Oui, on l'a vu
au concours de la force publique, effectivement. Donc, les grands combats, c'est le combat pour le relogement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les services du 115, donc, qui s'occupent des gens à la rue, sont totalement débordés. Et qu'en Ile-de-France, si vous n'êtes pas une femme avec enfant de moins de 3 ans, on vous laisse à la rue. Très simple, hein. Ce qui veut dire que même une femme enceinte aujourd'hui va rester à la rue. Les familles avec des enfants de 4, 5, 6, 7 ans peuvent rester à la rue. Donc on a un vrai sujet qui consiste à se battre pour essayer de trouver des solutions d'hébergement pour ces familles. J'en profite pour dire que le sujet de l'hébergement est totalement embolisé par les familles qui ne parviennent pas à accéder au logement, que donc tout ça est lié. J'ai parlé tout à l'heure des difficultés d'accès au logement. Ces familles qui ne parviennent pas à accéder au logement restent dans les dispositifs d'hébergement. Donc les dispositifs d'hébergement ne tournent pas suffisamment vite. En gros, les gens ne sortent pas assez vite de l'hébergement. Et donc le dispositif d'hébergement est embolisé. Et lorsqu'une famille est expulsée, il n'y a pas de place pour elle, tout simplement. Parce que les hébergements sont occupés par des familles qui ne peuvent pas accéder au logement social pour des raisons économiques.
Donc la seule solution, c'est encore la rue.
Donc la solution, c'est effectivement la rue. Alors à partir de là, on aide effectivement les familles, on fait des maraudes, des choses comme ça, on accompagne. Mais de fait,
La situation s'est beaucoup aggravée là-dessus.
Et plus,
énormément aggravée, puisque comme dit Michel, il y a encore quelques années, il y avait des critères qui consistaient à dire que des femmes enceintes et que des enfants de moins de 3 ans ne pouvaient pas être à la rue. Mais maintenant, il y a des décisions qui sont prises par les préfets qui consistent à dire qu'un enfant de 3 ans va rester à la rue, et puis on retrouve effectivement des femmes enceintes et des enfants de 3 mois. Donc les associations qui observent ça sont extrêmement inquiètes par rapport à ça. Nous, on n'observe pas véritablement, nous, dans notre activité quotidienne, mais on peut être extrêmement... on est dans des situations qui sont là très préoccupantes et très graves, bien sûr. Oui.
Et la solution, ça peut être à ce moment-là le squat, sauf qu'avec la loi Kasbarian, le squat, ça veut dire prison.
On va y venir. Très bientôt. Alors, François Meckel, vous êtes avec Solidarité Nouvelle pour le Logement dans l'accompagnement en vue d'un relogement.
Oui, on travaille dans le secteur qui s'appelle le logement d'insertion. On est en quelque sorte des bailleurs sociaux, mais on ne se reconnaît pas comme tel. On est des bailleurs un peu particuliers, c'est-à-dire que, en fait, on est une association qui accueille, mais on n'est pas les seuls, il y a tout un ensemble d'associations qui travaillent de la même façon. C'est ce qu'on appelle l'insertion, le logement d'insertion. Le logement d'insertion, c'est accueillir des gens pendant une certaine durée, c'est-à-dire quelques années, dans un logement, avant de leur proposer un relogement dans le droit commun, dans le secteur social, un logement durable, un logement définitif. Donc ça veut dire que les personnes que l'on accompagne, ce sont des personnes qui ont besoin d'un accompagnement. C'est un critère d'accès chez nous. On reçoit des personnes qui sont en général en très grande difficulté. On reçoit beaucoup de familles monoparentales, on reçoit beaucoup de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, enfin bon. Et on a des ménages à très faibles ressources, et on leur offre Mais ce sont des vrais locataires, ils ont un loyer, hein, ils ne sont pas accueillis, donc ce sont des vrais locataires, et ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés par des travailleurs sociaux, ils sont accompagnés par des bénévoles, voilà. On a un double accompagnement. Alors pourquoi est-ce qu'un accompagnement ? Ben, l'accompagnement, c'est, comme disait Michel tout à l'heure, l'accompagnement, c'est l'accès aux droits, c'est défendre les droits des personnes. On accompagne sur le logement, mais tout ce qui est périphérique du logement, effectivement, la santé, le travail, l'éducation, la sociabilité ou la civilité, même tout ça, c'est très important. Et en général, les personnes qu'on reçoit, soit elles viennent de la rue, soit ayant eu ou pas, d'ailleurs, étant à la rue, déjà une expérience de logement. Mais il y a le dernier chiffre, peut-être que j'avais, c'était 40% des personnes que l'on reçoit ont eu l'expérience de la rue. Voilà. Même si elles viennent d'un hébergement, elles ont connu la rue. Et donc, on reçoit des gens qui viennent d'un hébergement ou qui viennent d'un logement qui ne leur correspond pas, un logement insalubre, etc. Voilà. Et on gère à peu près, alors, c'est ce qu'on appelle le logement d'insertion. Et on a d'autres associations qui font ça, je citerai Habitat Humanisme, enfin voilà, qui est un peu plus connu que Solidarité Nouvelle pour Logement. Nous, on exerce au niveau régional de l'Île-de-France pour le moment. Voilà. Voilà ce que, un peu pour présenter l'association rapidement.
D'accord, mais quand vous dites accompagner ces personnes, concrètement, ça veut dire quoi pour
ben,
vous?
Ça veut dire pour les accompagner, ben, les travailleurs sociaux, ça veut dire on a des pôles sociaux qui prennent en charge ces personnes et qui, effectivement, doivent les accompagner vers le relogement. Mais entre le
ça veut dire monter des dossiers.
Enfin, ça veut dire monter les dossiers. Ça veut dire monter les dossiers effectivement du logement. Ça veut dire monter les dossiers d'allo. Ça veut dire au bout d'un certain temps en tout cas. Et ça veut dire leur donner la possibilité à un certain moment, lorsqu'ils ont acquis une certaine autonomie entre guillemets, disons, de devenir des locataires qui soient capables de payer des quittances, de payer l'électricité, de payer les charges, enfin, de s'en sortir responsable, et donc de les préparer à intégrer un logement définitif. Ça, c'est un accompagnement qui est fait au niveau du travail social, mais c'est fait aussi au niveau du bénévolat. Les ménages sont accompagnés par des bénévoles, dont je suis d'ailleurs, et ils sont accompagnés à ce moment-là d'une façon locale, dans le quartier, intégration dans le quartier, la relation avec les écoles, la relation avec les travailleurs sociaux du quartier, etc. Il y a tout un travail local.
De maillage.
On a un maillage local, puisqu'on est, nous, une association de citoyens au départ, des citoyens qui se sont décidés il y a 30 ans à acheter des logements pour héberger des gens. Voilà, bon, maintenant, ça c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu institutionnalisé, mais on est toujours à peu près sur le même modèle d'imprégnation locale.
Alors, parlons maintenant à la mobilisation qui existe pour la constitutionnalisation du droit au logement. Je crois, Michel Plazer, si je ne me trompe pas, qu'ATD Quart-Monde participe à cette campagne, à laquelle la Ligue des droits de l'homme participe aussi.
Oui, alors effectivement...
Est-ce que vous pensez que c'est important d'abord de mener cette bataille pour la constitutionnalisation?
Oui, et pas tout à fait oui. Oui, bien entendu, parce que le droit au logement est cité dans les 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution, je rappelle. La nation, je cite, « assure à l'individu et à sa famille les conditions nécessaires à leur développement ». Et comme je l'ai dit, une famille sans logement, c'est une famille qui n'est pas dans les conditions nécessaires à son développement. Donc, indirectement, le droit au logement était prévu, est prévu dans ce préambule de la Constitution. Et effectivement, en 2007, nous avons eu une victoire, on va dire. Au départ, on pensait que c'était une grande victoire. Aujourd'hui, on comprend que ce n'est qu'une première victoire qui a été l'institution du droit au logement opposable par le président Jacques Chirac, qu'on ne saura jamais trop remercier d'avoir pris, après avoir consulté l'ensemble des grandes associations, de toutes les parties prenantes, a effectivement choisi d'institutionnaliser le DALO par cette loi de 2007. Sauf que, ce droit DALO n'est absolument pas effectif. Vous savez, on fait toujours la différence entre l'énoncé d'un droit et l'effectivité d'un droit.
À la Ligue des droits de l'homme, nous sommes très attachés à ces deux notions.
Un droit à l'éducation, si on supprime toutes les écoles, ça va être compliqué. Et donc, aujourd'hui, suite à cette loi DALO, on constate que la seule action concrète qui a été conduite pour mettre en œuvre le droit au logement et le rendre effectif, ça a été de bâtir des listes d'attente. C'est-à-dire qu'on a identifié des personnes qui étaient prioritaires au titre du droit au logement et on les a mis dans une grande file d'attente. Aujourd'hui, il doit y avoir 80 ou 85 000 familles qui attendent, en très très grande majorité en Île-de-France, et pour certaines, attendent 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire plus. Donc en fait, le droit au logement, il est annoncé, énoncé, mais il n'est pas effectif puisque, encore une fois, aucun effort n'a été fait pour cette effectivité. Et je dirais même pire, ce que l'État a fait depuis 2007, c'est plutôt de réduire l'effectivité du droit au logement en augmentant les difficultés d'accès au logement social des familles dont on parlait tout à l'heure. Donc on peut considérer, et là, si je le regrette, que l'action publique a conduit à un rétropédalage dans l'effectivité du droit au logement qui se manifeste aujourd'hui, encore une fois, par ces fameuses files d'attente interminables et ces délais considérables. Donc à partir de là, je dis... constitutionnalisons, oui, on se bat pour ça, on est aux côtés de la LDH et on considère que c'est un juste combat. Simplement, si les moyens sont négligés, méprisés, eh bien ça risque d'être encore presque, j'ose le dire, un coup d'épée dans l'eau. Hein, c'est depuis sept ans, aucun ministre du logement n'a prononcé le mot DALO. Monsieur Kasbarian n'a jamais employé le mot DALO et je pense qu'il ne l'emploiera jamais. Donc c'est un véritable souci, encore une fois, ce gouffre qui se creuse entre l'énoncé d'un droit et son effectivité.
Alors, Michel Plazer, vous venez de dire que Guillaume Kasbarian ne ferait jamais allusion à la loi DALO de 2007. Vous nous avez démontré en quoi ce droit n'était pas un droit effectif. Eh bien, parlons justement de la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, dite loi anti-squat.
Oui,
qui veut prendre la parole là-dessus.
Oui, on a dit que c'était une loi anti-squat parce que c'est pas lui qui l'a dit, mais en fait c'est lui qui a mis le squat en premier dans sa loi. C'est-à-dire que cette loi, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, enfin Michel l'a dit d'une certaine façon, que cette loi, elle a mis en avant le sort de quelques... c'est vrai que dans le texte de loi proprement dit, dans les attendus de la loi, dans les... l'introduction de la loi, il y avait cette idée que c'est comme ça que il y avait des propriétaires, des pauvres propriétaires ou des propriétaires en tout cas qui se trouvaient exclus de leur logement et qui pouvaient plus le récupérer parce que les squatteurs qui étaient dedans mettaient tout en œuvre pour qu'ils ne le récupèrent pas. Voilà, donc on parlait d'un propriétaire qui vivait dans la roulotte à côté de sa maison, enfin, etc.
Alors, une dramatisation.
Une dramatisation excessive.
Voilà.
Mais ça existe, de fait. Il y a certainement... disons. Mais on s'est rendu compte, en analysant un peu ce contexte, c'est comme ça que ça a été porté devant le public et porté devant l'Assemblée, on s'est rendu compte que ça représentait un chouïa, ça représentait... des cas très très limités, et c'est même un observatoire d'ailleurs, un observatoire du squat qui disait ça, c'est-à-dire qu'il y a eu en fait sur quelques dizaines de cas qui avaient été énoncés en quelques années, donc c'est, bon, il y a eu cet appel comme ça sensible pour faire monter un peu la sauce de la loi, et donc cette loi anti-squat c'est ça qui a été menée. Alors sur le squat en particulier, c'est vrai que, enfin la loi a dit que, eh bien, Ça a surtout consisté à durcir, effectivement, la loi. Ça a été fortement critiqué par rapport à des dispositions précédentes qui existaient déjà et qui avaient été avancées par le même député Kasbarian, d'ailleurs. Et on a dit, mais voyons, pourquoi cette loi, il n'y a pas besoin, très bien, ce qui marche, ça marche très bien. Bon. Et ça a consisté surtout à changer la notion de domicile. C'est-à-dire, on a dit, le domicile, c'est plus seulement une maison, c'est plus seulement une maison habitable. Le domicile, c'est un entrepôt, le domicile, c'est un commerce, le domicile, c'est un local, tout bâtiment est susceptible de devenir, voilà. Et donc, on a durci les conditions par rapport à ça, alors qu'existait déjà la possibilité, réglementairement, c'était aussi ça, réglementairement, de pouvoir expulser les squatteurs sans faire acte de justice. Bon, donc, ça, c'est la première chose. Et là-dessus... sur ce mouvement, en quelque sorte, s'est greffée la question des impayés de loyer et de l'expulsion des locataires. En fait, ça a été porté comme ça. D'ailleurs, c'est un peu dommage que la loi, c'est pas l'expulsion des locataires pour impayés. Ça serait beaucoup mieux plutôt que dire loi anti-squat. Mais comme ça, c'est ce qui est resté. Et sur la question des impayés, l'idée, ça a été de faire en sorte de durcir au maximum les pénalités et les accordées aux enfin les pénalités accordées, si on peut dire, en tout cas les pénalités imposées, de durcir les conditions de maintien dans les lieux des personnes qui avaient des difficultés d'impayés. Et ça a été fait de quelle façon? Ça a été fait en réduisant le pouvoir du juge. C'est-à-dire qu'auparavant, le juge, il devait forcément s'occuper du dossier et il devait pouvoir négocier entre propriétaires et locataires, négocier des facilités, en tout cas des échéances de paiement, de réduction de la dette. Maintenant, ce n'est plus possible que si c'est... il devait le faire même s'il n'y avait pas la présence au tribunal administratif, si la demande ne venait pas du locataire. Maintenant, c'est possible si... Ça vient du locataire uniquement, si le locataire le demande. Alors la question, c'est qu'il y a beaucoup de locataires qui ne vont pas au tribunal.
Ils ne sont pas impliqués.
Ils sont impliqués à travers, mais ils ne sont pas réellement impliqués. Et donc le juge a été dessaisi, en quelque sorte, on pourrait dire d'une façon réglementaire, il a été dessaisi de cette possibilité, ce qui fait que les expulsions sont beaucoup plus faciles et que... Les délais ont été réduits à 2 mois. Et ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Baptiste, c'est qu'il y a une amende de 7 500 € qui pèse effectivement. Avant, c'était la prison. Alors, dans la loi, au départ, il y avait la prison. Il y avait 6 mois de prison, il y avait 7 500. Bon, il restait uniquement les 7 500 €. Voilà la pénalité. Donc cette loi, effectivement, elle a été tout de suite considérée. D'abord, elle a subi beaucoup d'opposition, des assauts, etc.
Il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel, ce qui s'appelle la contribution extérieure, qui a été présentée par 35 associations signataires, dont ATD Carbon, dont la Fondation Abbé Pierre, dont la Ligue des droits de l'homme et de multiples associations mobilisées sur le droit au logement et sur les droits démocratiques. Et alors, en fait, ce que vous nous avez dit, François Meckel, c'est qu'il y a eu une instrumentalisation de cette loi. Bon, en faisant, mais en dramatisant...
On a dramatisé,
alors que plus de 90%...
95%,
sont des locaux squattés, sont des locaux qui sont vides et qui sont, généralement, même pas des locaux d'habitation, mais qui sont plutôt
des bureaux, des entrepôts, des bureaux. Cette requalification de la notion de domicile est très importante.
Nous l'avons bien compris. Alors, dans cette contribution extérieure, justement, dans le plaidoyer qui a été porté devant le Conseil constitutionnel, il y a eu toute une réflexion qu'on pourrait dire presque philosophique sur le caractère absolu du droit de propriété, qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, qui est un droit de propriété qui est rappelé dans le Code civil comme étant sacro-saint, sacré et inviolable, et à juste titre d'ailleurs, dans un pays démocratique. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des situations où ce droit, où le caractère absolu de ce droit est contestable quand il s'agit de personnes, de familles, d'enfants de 3 ans, Michel Platzer, comme vous nous l'avez dit, que l'on jette à la rue? Est-ce qu'il n'y a pas quand même là une situation qui devrait permettre de reconsidérer le caractère, j'ai envie de dire, totalement absolu du droit de propriété?
Ah mais bien entendu. D'abord, il faut préciser que ce côté absolu du droit de propriété qui vient effectivement de 1789, où la bourgeoisie, qui avait enfin la capacité à récupérer des biens qui étaient auparavant exclusivement propriété de la noblesse ou du clergé, a voulu effectivement cocooniser ce droit de propriété et le rendre inviolable. Il y a d'autres pays qui vivent dans d'autres familles, on va dire, de démocratie, notamment certains pays du Nord, où le droit de propriété est effectivement beaucoup moins puissant qu'en France. Il y a des pays du Nord, où lorsque vous vous installez sur un terrain, si vous y restez quelque temps, ça vous donne effectivement des droits, même si le terrain n'est pas à vous. Bon, et je citais tout à l'heure cet exemple de l'arrivée d'un métro qui multiplie par 10 la valeur d'un terrain. Est-ce que le propriétaire en question, qui effectivement s'enrichit sans rien faire, doit conserver le même niveau de droit de propriété sur ce bien? Nous, on n'est absolument pas contre le capitalisme, que des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent en produisant beaucoup de choses très bien et en les vendant par une activité voyez, fasse des profits, pourquoi pas. Mais qu'on fasse un profit uniquement à cause d'un investissement public, un profit privé causé par un investissement public, pour moi, ça conduit effectivement à certaines formes de reconsidération du droit de propriété. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra en passer par là. En tout cas, affirmer un droit au logement absolu et un droit de propriété absolu, ça conduit un peu dans une impasse.
En effet, autre aspect répressif de la loi Kasbarian, la pénalisation des associations de défense des expulsés et squatteurs dans le droit fil de la politique de répression à l'encontre du droit syndical et de l'exercice des libertés. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots, François Meckel.
Heureusement, nous n'en avons pas été victimes et nous n'avons pas été portés au tribunal pour avoir exercé ce droit. Mais c'est vrai que quand c'est apparu, ça, et je pense évidemment à la LDH a été très réactive sur le sujet, sans doute, ça nous est apparu. C'est-à-dire, en fait, c'était la question de la publicité. On a un peu l'impression, d'ailleurs, que c'est un peu la même chose qui se passe aujourd'hui sur la question de la Palestine et tout ça. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas énoncer. Bon, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire, on a quand même été extrêmement inquiets. Et on peut penser que on est dans une situation dans laquelle il y a un contrôle de plus important de la parole des associations en général, que ce soit sur ce sujet comme sur d'autres. Je n'ai pas d'informations, moi particulièrement, sur le fait qu'une association ait eu à subir, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu
jusqu'à
dire...
Présent, jusqu'à pour présent, moment.
Pour le moment, hein, qu'une association... Mais bon, mais c'est vrai que on a eu à travers les valeurs républicaines, voilà, la loi sur les valeurs républicaines, sur laquelle il y a eu effectivement ce contrôle de l'association qui a été dit. Il y a un certain nombre d'associations qui ont réagi d'ailleurs. Oui. Les associations diocésaines, d'ailleurs, le clergé, enfin en France, enfin, etc.
Pas seulement,
mais la LDH aussi, voilà.
On a vu d'ailleurs voilà. des groupements écologistes dont les subventions étaient menacées. Il me semble que c'était à Poitiers. Hein. Ouais. Voilà, donc tout est inscrit dans la loi pour éventuellement pouvoir réprimer les associations de défense du droit au logement qui s'engageraient dans des actions, on va dire, assez radicales.
Nous sommes presque au terme de cette émission, nous aurions encore beaucoup de choses à dire. Dernière question peut-être, Bruno, quelle serait la première mesure à prendre dans le cadre d'une politique de logement efficace? Si vous étiez l'un et l'autre ministre du logement, au même Premier ministre, Michel Platzer.
Écoutez, mesure effectivement qui permettrait de commencer un redressement de l'ensemble, ce serait de remettre à niveau les aides au logement. C'est-à-dire de rendre les logements plus facilement accessibles aux plus pauvres, de resolvabiliser les familles qui entrent dans le logement. Et je veux dire, aujourd'hui, on a 2 à 3 milliards qui sont partis en fumée dans ces aides au logement et les remettre, encore une fois, par rapport aux 90 milliards, comme je disais, de produits fiscaux du logement, les remettre dans le circuit des aides au logement donnerait effectivement un grand bol d'air. Ça, c'est la mesure qui coûte. Alors évidemment, sans que ce soit en aucune façon une attaque personnelle, mais je pense que les actions du ministre du Logement sont effectivement terriblement contre-productives. Et la mesure qui aujourd'hui ne coûterait rien consisterait à changer de ministre.
Il sera content de l'entendre. François Meckel, même question.
Bien, en dehors de la question financière, qu'on pourrait d'ailleurs aborder par la question de la fiscalité en général, nous, on fait partie ATD aussi, la FAP, toutes les organisations qui luttent contre le logement font partie d'un collectif plus large qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre, par exemple. Le Pacte du pouvoir de vivre qui, lui, travaille sur cette notion de fiscalité qui est dont il est beaucoup question actuellement. Alors, moi, je dirais plutôt... Enfin, je dirais, en dehors de la question financière, si j'étais ministre du Logement, je m'évertuerais à en faire une grande cause nationale, disons. Voilà. Mais bon, ce sont des mots, mais...
Avec les moyens qui suivent.
C'est-à-dire une grande cause nationale, dans la mesure où Ce retrait de l'État, c'est aussi un retrait quelque part démocratique, on pourrait dire, au niveau cognitif, c'est-à-dire du logement. C'est-à-dire que le logement n'est pas pris en compte. Consistant à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire parler à la fois le privé, le public, et essayer de faire en sorte que tous ces acteurs, ensemble, se mettent d'accord quelque part dans une convention sur un projet qui permettrait de continuer effectivement le travail qui est fait sur le privé, mais surtout de permettre au logement social de mieux tenir son rôle. Voilà.
Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à vous tous. Merci Bruno Guironnet pour cette émission dont vous avez assuré la préparation. Merci aussi à Boudjema Daman, Laurence Sabiri et également, et surtout je dirais, Saïd Nabil, qui était à la technique. Merci aussi à la Ligue de l'enseignement qui nous a accueillis ce soir. Bonne soirée à tous et au mois prochain.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.